de Jésus-Christ. Qui est? Voilà, les noces de Cana. Voilà. La fois où Jésus a transformé l'eau en vin. C'est vrai qu'à l'époque de Jésus, le mariage était l'occasion de faire un long festin. Des banquets étaient préparés pour de nombreux invités qui passent. Et puis cette fête en l'honneur des mariés durait pendant une semaine. Ce n'est pas comme chez nous aujourd'hui où nous fêtons, enfin en deux jours quand même, le mariage le soir et même le lendemain où on mange tous ensemble. Mais là, tous ensemble, tous les habitants du village étaient invités pour fêter cette célébration de mariage entre les deux jeunes mariés. Donc je disais que personne ne manquait de venir, refuser l'invitation était considéré comme offensant. Et d'ailleurs, dans l'histoire d'aujourd'hui, Jésus prend le temps pour entretenir une bonne relation amicale aussi avec d'autres personnes. Il accepte à l'invitation lancée par ces deux jeunes mariés. Alors, j'aimerais vous dire, ou plutôt vous lire dans Jean chapitre 2, versets 1 et 2 déjà, que j'aimerais vous lire. Trois jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Voilà, jusqu'ici notre lecture. Il est bien dit, on commence par trois jours plus tard. Alors sachez que avant cet événement des noces de Cana, Jésus était donc passé par les eaux de baptême. Par Jean-Baptiste, et à ce moment-là, donc il fut baptisé par Jean dans le Jourdain, et au moment où il sortait de l'eau, on voit les disciples de Jean, ou encore les gens qui étaient tout près de Jésus, ont vu les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur Jésus comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ses paroles en disant que, en parlant de Jésus bien sûr, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Déjà, il y a un premier miracle, une voix s'entendre dans les cieux. Ce n'est pas Jésus lui-même qui a accompli un miracle, mais c'est Dieu, le Père, qui fait entendre cette voix. Après donc cette confirmation comme quoi Jésus est bien le Messie attendu, il part dans le désert pendant 40 jours, il jeûne, il a été tenté aussi par le tentateur. Il réussit bien sûr toutes ses tentations et puis il ne succombe pas. Au contraire, avec la parole de Dieu, il fait fuir. Et ensuite, il commence enfin son ministère en prêchant cette parole, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Il n'a réalisé aucun miracle jusqu'à maintenant. Il n'a fait que qu'enseigner la parole de Dieu. Il n'a fait que dire un enseignement pour justement que le peuple de Dieu revienne auprès du Père. Ensuite, il appelle ses disciples un à un pour qu'ils le suivent. Alors, la parole d'aujourd'hui est bien sur le miracle de transformation de l'eau en vin. Quand on se dit, mais pour un premier miracle, Jésus aurait pu, aurait pu faire autrement, guérir une personne aveugle, donner la liberté, ou ressusciter un mort, ça aurait été encore extraordinaire, non. Il va justement. C'est pas du tout une question de vie ou de mort, mais il va répondre à un besoin pour les gens du village qui étaient là pour fêter le mariage, pour célébrer, pour faire honneur à ce mariage. Pourquoi ce miracle au lieu des autres miracles? Ça, c'est encore, on pourrait réfléchir ensemble. Et puis d'ailleurs, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui va déclencher l'action du Christ? Tout d'abord, au verset 3, on continue la lecture, au verset 3, il est dit « Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Voilà donc Jésus entend le besoin. Et on voit que pendant cette fête de mariage, il y avait un manque de vin qui était en fait un problème grave, surtout pour, à l'époque très culturelle, à l'époque où justement l'hospitalité était très importante. Dans la vie courante, nous avons toujours des problèmes, n'est-ce pas? Nous sommes confrontés à des problèmes, la vie n'est pas du tout un long fleuve tranquille. La vie, une vie sans problème n'existe pas. Je dirais même, une église sans problème n'existe pas. Il y a toujours des imprévus dans la vie. Et puis, devant ce manque de vin, Marie expose le problème. Elle espère que Jésus va résoudre le problème. Ici, devant une problématique, il y avait Jésus. Et ce qu'on pourrait en fait penser, ou plutôt retenir comme leçon, c'est que Jésus était invité dans cette fête, il était présent. Et la réflexion que nous pourrions avoir, c'est est-ce que nous l'avons invité dans ma vie personnelle? Vous savez, l'invitation de Jésus ne doit pas être seulement au moment de notre conversion. Souvent, j'ai vu plein de fois, où les gens expérimentent quelque chose de fort avec le Seigneur, et puis, avec le temps, ils régressent. Il y a quelques semaines de cela, nous avons entendu une prédication de la part de Daniel qui a parlé de la croissance, de la maturité qu'on devrait avoir. Hein? Un enfant qui ne grandit pas, c'est un enfant qui n'est pas normal. Pareil, une fois que nous l'avons invité dans notre vie, il faut que cette présence de Dieu soit en continu, non pas juste sporadique. Et puis, il est important aussi, bien sûr, d'adresser nos problèmes à Jésus. La mère s'adresse donc à Jésus en croyant qu'il peut faire quelque chose. Elle ne sait pas quoi, mais elle lui fait simplement part de ce manque. Elle reconnaît qu'elle a besoin de lui. De même, nous aussi, nous devrions faire part des manques que nous avons pour que Dieu aussi intervienne. Vous savez qu'il y a un mois de cela, donc j'ai été hospitalisé aux urgences à cause de ce problème de douleur thoracique. Et là, j'ai pu retenir plusieurs leçons. Tout d'abord, vous savez, quand vous êtes à l'hôpital et que vous voyez des gens qui sont beaucoup plus malades que vous, hein, des gens qui justement sont entre la vie et la mort, là, c'est quand même impressionnant. Et puis, vous-même, en tout cas moi-même, je ne savais pas si c'était vraiment une vraie crise cardiaque et que peut-être que je pourrais passer dans l'au-delà. Hein? Est-ce que je suis prêt? C'est une question qu'on se pose toujours à ce moment-là. Et puis, et pendant ce long d'attente d'examen, parce que vous savez, quand vous êtes hospitalisé, on fait des examens, on appelle ça comment électrocardiogramme, voilà, plus des prises de sang, examens radio, etc., la totale. Pendant ce temps, toute la journée, vous êtes délaissé, tout seul, donc vous avez du temps. Et quand vous êtes chrétien et que vous avez du temps, qu'est-ce que vous faites? On prie, on médite, on lit la parole de Dieu. Et là, ça m'a rappelé une histoire. Quand nous avons un problème, qu'est-ce que nous devons faire? Bien sûr, nous devons exposer nos problèmes, et ça m'a rappelé l'histoire d'Ézéchias, qui a été atteint de sa maladie, d'une maladie grave. Et une fois, quand il a su qu'il était malade, le prophète Ésaïe lui annonce justement qu'il allait mourir. Là, il prend conscience de l'imminence de la mort qui s'approche. Il voit l'échéance se rapprocher. À l'époque où il était malade, Ézéchias, le roi de Juda, Il avait 39 ans. Donc, pour moi, qui est maintenant, cette année, je vais avoir 48. Je me dis que 39 ans, quand j'avais 39 ans, enfin, j'étais encore jeune. Et je me dis que oui, ce roi Ézéchias, qui a encore plein d'avenir, à 39 ans, on lui déclare son arrêt de mort. Et il devait être vraiment triste. On peut voir cette histoire dans 2 Rois, chapitre 20. Et j'aimerais vous lire quelques versets de ce Ézéchias. Donc, il a été atteint d'une maladie mortelle. Et Ésaïe lui annonce justement en lui disant, car tu ne survivras pas à ta maladie. Alors Ézéchias se tourna contre le mur et adressa au Seigneur cette prière. « Ah Seigneur, souviens-toi, je me suis conduit envers toi avec une entière loyauté. J'ai toujours agi de manière à te plaire. » Est-ce qu'on peut faire ce genre de prière? Waouh, c'est fort quand même. Hein? Quand j'ai lu ça, je me suis dit, est-ce que j'ai été vraiment aussi bien comme ce roi Ézéchias qui a quand même démoli pas mal d'idolâtrie dans son pays, etc., etc. Est-ce que je me suis conduit envers le Seigneur avec une entière loyauté? Enfin, je me suis posé. Bon, il n'était pas non plus toujours parfait. Hein? Ça m'a encore quand même rassuré parce que, voilà, il n'a pas forcément tout le temps écouté aussi le prophète Ésaïe. Et puis, il a pleuré. Après l'annonce de la mort de ce roi Ézéchias, le prophète Ésaïe était en train de repartir et là encore, il entend une voix de la part du Seigneur qui lui dit, ben, écoute, j'ai entendu la prière d'Ézéchias, donc tu vas retourner le voir. Ça reste un très court instant. Et il lui dit, va lui dire ceci, il a dit, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes, eh bien, je vais te guérir dès après-demain. Tu pourras de nouveau te rendre au temple du Seigneur. Je vais même prolonger ta vie de 15 ans. Enfin, 15 ans, 39 plus 15, ça ne fait pas grand-chose. mais bon, voilà. Je vous ai rassuré, toi et Jérusalem, aux griffes du roi d'Assyrie, parce que le pays était aussi en danger. Je protégerai cette ville parce que je suis Dieu et par fidélité à Dieu, à David, mon serviteur. Quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, Dieu reste fidèle. Même si en ce moment, je suis sur un brancard, en train d'agoniser de douleur, ben, le Seigneur est là et qu'il peut me relever à tout instant. Exposer nos problèmes est très important. Parfois, bien sûr, Dieu répond aussi rapidement que comme Ézéchias, mais il répond aussi selon sa volonté. Parfois, on a besoin de patience pour ça. Ce qui est en tout cas sûr, c'est que au moment où justement les villageois avaient besoin de continuer la fête, de faire la fête, ben, Jésus était là aussi pour peut-être être dans la joie avec cette couple qui s'unit. Il y a une longue, ça pourrait cette signification de mariage, on pourrait aussi, vous savez que l'alliance est très importante à cette époque entre les couples, mais aussi quand on parle de l'alliance, on pense souvent aussi à l'alliance avec le Seigneur. En tout cas, ce miracle, à travers ce miracle, ce qu'on peut aussi retenir comme leçon, c'est que ce Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il désire accomplir le miracle au sein de nos vies, maintenant aussi. Je ne sais pas tous vos sujets de prière, mais je vous invite vraiment à faire confiance davantage à ce Seigneur qui est si bon et qui répond aussi à nos besoins. Vous savez aussi que Jésus, lui-même, était un homme de prière. Il avait ce besoin de référer auprès du Père pour lui parler de son ministère, pour lui parler de son projet, pour lui communiquer, pour l'entendre aussi, pour qu'il y ait une vraie communion. Et c'est dans cette prière qu'il a pu aussi avoir ce repos. Et j'aimerais nous dire, qui sommes-nous pour faire moins que Jésus ? Qui sommes-nous pour négliger la prière? Qui sommes-nous pour ne pas exposer nos problèmes et faire confiance à notre propre force? Même Jésus, le Fils de Dieu bien-aimé, avait besoin de cette communion avec le Père. Je lis le verset suivant. Donc après avoir exposé le besoin, le manque de vin, Jésus lui répond en disant: « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Qu'est-ce que vous pensez de cette verset-là? Quand j'ai lu ça, déjà, il dit « femme » à sa maman. Bon, je n'oserais pas dire ça à ma maman. Sur ce point, les commentateurs ne sont pas unanimes. Certains voient là un rejet de la part du Christ. Et certains voient que voilà, Christ pense que ce n'est pas encore le moment de réaliser un miracle. D'autres, si quand même, ils réalisent quand même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si il y avait un certain rejet de la part du Christ, cela montrerait que malgré notre prière maladroite dans notre demande, il réalise. Dieu nous écoute. Dieu exauce aussi, bien sûr selon sa volonté, mais Dieu répond. J'aimerais lire les versets suivants. Verset 5. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, portez-en à l'ordinateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Bien dit, appela l'époux. Et il dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le verset 5 Marie dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Elle s'adresse au serviteur. Et Jésus leur recommande de remplir d'eau 6 jars qui servaient à des rites de purification. Là, c'est pourquoi toute cette mise en scène, on pourrait aussi réfléchir là-dessus. Ce qui est encore intéressant, c'est que on pourrait aussi interpréter que la purification des péchés est quand même très importante dans cette démarche de miracle. Je pense que aussi il a voulu, en prenant ces jars de purification d'eau, vous savez qu'à l'époque il était de tradition que les gens qui entrent dans une maison fassent leur ablution pour se laver. Ça a été un petit peu, voilà, on voit ça aussi dans l'Ancien Testament, la purification de son corps est aussi très importante. L'impur est pur, c'est ça, non? On dit pur quand même. Il n'y a pas de. Oui. Non, il y a pas. Il y a un autre mot. Mais c'est pas grave. L'impur est pur est quand même très important. On voit ça dans l'Ancien Testament. Et les gens justement en entrant dans cette fête, ils avaient aussi cette coutume de se laver les mains, hein, même les pieds aussi. Et cette rite de purification symbolise justement que. Et puis surtout en utilisant ces jars, on se dit que oui, les seigneurs donne l'importance aux purifications de nos péchés. Et je vous avais dit dès la première, au début de ma prédication, que le premier message que Jésus a prononcé, c'était « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Ce message était très important, et avec justement, en prenant ces jars de purification, on peut aussi comprendre l'importance de la confession de nos péchés pour recevoir justement la grâce de Dieu, pour recevoir cette grâce de Dieu immense. Et puis, on peut aussi remarquer le comportement de ces serviteurs. Vous savez que ces serviteurs sont les serviteurs des mariés. Ce n'est pas les serviteurs de Jésus. Hein? Et on leur dit de puiser l'eau et donner à l'ordonnateur du repas. Ils ne savent pas ce qui va se passer. On ne sait pas si ça s'est transformé au moment de au moment où l'ordinateur du repas a goûté. On ne sait pas. Je pense que c'est soit pendant le chemin ou peut-être devant justement à l'ordinateur du repas. Ce qui est en tout cas important ici, c'est que les serviteurs ont obéi. Est-ce que nous, lorsque le Seigneur nous parle à travers la Bible, vous savez, il y a plusieurs manières d'entendre la voix du Seigneur, hein, à travers bien sûr l'enseignement, à travers la parole de Dieu, à travers aussi les recommandations de nos chers proches, selon aussi la parole de Dieu, ou encore Dieu, bien sûr, peut parler directement à travers les songes. Est-ce que lorsque nous entendons cette parole qui nous vivifie, est-ce que nous, après, obéissons à toutes ces paroles-là ? En tout cas, ces serviteurs qui n'avaient pas forcément une grande connaissance sur Jésus, et je vous rappelle, c'est le premier miracle, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais guéri une personne. Où il n'a pas guéri les aveugles, les paralytiques, il n'a pas ressuscité les morts. Il a justement, mais malgré cela, les serviteurs ont fait confiance et ils ont apporté jusqu'à l'ordinateur du repas. Ils ont pu voir le miracle s'opérer dans tout cela. Jésus, en tout cas, à travers cet épisode, nous propose de recevoir cette bénédiction et ces valeurs qui viennent de Dieu pour essayer de les vivre. Faire ce que le Seigneur vous dit dans la parole, tel est le secret d'une vie abondante. Sa seigneurie est manifestée lorsque nous obéissons à sa parole. Une fois ce pas franchi, notre vie commencera à porter du fruit et peu à peu, elle en produira aussi en abondance. Et puis à la fin, quand il s'est dit « Mais d'où vient cette vin ?» Les serviteurs savaient d'où venait ce vin. Il y avait une autre niveau de foi que ces serviteurs ont pu expérimenter. Avec l'obéissance, nous pouvons expérimenter un autre niveau de foi. Sans obéissance, nous allons rester comme des chrétiens de nous. Comme si la chrétienté reste une religiosité, même si nous avons 50 ans de pratique de foi, on ne pourra jamais expérimenter cette vie abondante, cette vie incroyable que Dieu peut faire en chacun de nous. J'aimerais conclure. Nous avons vu que Dieu est présent et surtout, il accepte d'entrer en nous lorsque nous l'invitons. Je vous invite vraiment aussi à ouvrir grandement notre vie en Jésus-Christ pour qu'il puisse aussi nous opérer de manière en détail. Et puis, exposons aussi nos problèmes à Jésus de manière plus régulière. Vous savez que souvent, c'est dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, que Dieu aussi peut s'opérer, peut faire des choses incroyables. Et on voit à travers cet événement de miracle, c'est aussi c'est dans l'obéissance qu'ils ont pu aussi expérimenter cette transformation de l'eau en vin, que nous puissions aussi expérimenter en lui faisant davantage confiance. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui écoute nos prières. tu n'exauces pas seulement des grands sujets de prière qui concernent la vie ou la mort, mais aussi dans la vie quotidienne. Tu connais nos besoins, nos frustrations, nos demandes, nos requêtes, et tu réponds selon ta volonté. Que nous puissions avoir cette communion plus sincère, authentique avec toi, pour expérimenter des miracles de ta présence dans ma vie personnelle. Et Seigneur, que nous puissions aussi faire une prière comme ce roi Ézéchias qui a pu aussi faire une prière en se souvenant de ce qu'il a pu faire pour toi, que nous puissions mener une vie intègre aussi dans notre prière. Merci encore parce que tu es un Dieu vivant, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu nous écoutes, tu ne nous abandonnes pas. Même si les hommes nous abandonnent, toi tu ne nous abandonnes pas, tu restes fidèle parce que tu es fidèle à ton alliance que tu as conclue avec nous. Aide-nous vraiment à te faire davantage confiance pour, peut-être grandir dans la foi, pour grandir dans la maturité spirituelle. Merci Seigneur encore pour ta présence avec nous ce matin. Nous te louons pour tes bienfaits. Au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Les annonces.